Ici Vichy, la voix de la France.
En avril 1942, imposé par les Allemands, Pierre Laval revient aux affaires et devient chef du gouvernement de Vichy.
Je ferai tout pour tenter d'assurer le salut de notre pays. Le gouvernement fera son devoir pour tâcher de réduire vos souffrances.
Et l'Auvergnat a du pain sur la planche. Les Français subissent l'occupation depuis 2 ans.
Rien ne sera négligé pour améliorer le sort difficile qui vous est fait. Mais c'est par votre travail, par un effort soutenu, ardent et tenace, que vous contribuerez chacun dans votre sphère à assurer le relèvement de notre pays.
Pierre Laval, prêt à tout donc pour relever le pays, y compris à livrer les Juifs de France aux nazis, avec la bénédiction de Philippe Pétain.
Moi, je n'aime pas les cambrioleurs et les pillards. Et il y avait dans mon pays une bande de cambrioleurs et de pillards, c'était l'armée nazie. Et puis j'aime encore moins les gens qui aident les cambrioleurs et les pillards, et c'était le gouvernement de Vichy.
Quand Pierre Laval s'empare du pouvoir, nos 5 femmes sont en lutte contre les nazis et le régime de Vichy depuis déjà de longs mois.
Si on fait rien, personne ne fera rien. Faut qu'on s'en sorte.
À Lyon, Lucie Aubrac appartient au comité directeur du mouvement Libération Sud. À Paris, l'étudiante Geneviève de Gaulle se démène pour faire connaître son oncle aux Français. Et dans le Sud-Ouest, Mila Racine approvisionne les camps d'internement où sont parqués les Juifs étrangers.
La mission est confirmée.
Quant à Simone Mathieu, elle a créé à Londres le corps des volontaires françaises et s'apprête à entrer dans les services secrets du général de Gaulle. Et enfin, en Égypte, Renée Davelli est en train de devenir une assistante sociale vedette auprès des soldats blessés sur le front de la guerre du désert. Alors, quel impact et quelles conséquences a eu la politique de Pierre Laval sur les trajectoires de nos 5 femmes? C'est la trame de ce nouvel épisode.
Ce que la Française supporte moins que tout autre, c'est l'ennemi chez elle. C'est de voir chez elle celui qu'elle n'y a pas invité. On ne s'impose pas chez une femme française.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Les Résistantes. 5e épisode, obéir, c'est trahir.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
Voyons, madame, vous, qu'est-ce que vous faisiez?
Moi, je distribuais des tracts et je fabriquais des fausses cartes d'identité.
J'ai fait des transmissions de consignes pour parachutage, des organisations maquis.
Vous avez posé vous-même les pains de plastique?
Avec des détonateurs que j'avais fabriqués moi-même parce qu'on en manquait.
Quelle était la raison qui vous animait?
C'était pour sauver son pays.
Quelques semaines après sa nomination par Philippe Pétain à la tête du gouvernement, Pierre Laval, fossoyeur de la République en juillet 1940, revient à la radio le 22 juin 1942.
Le 20 avril dernier, je vous ai dit le but que je poursuivais, mais je ne vous ai pas caché que la tâche à accomplir serait rude.
Avec sa cravate blanche et bouffie d'orgueil, Pierre Laval se veut sauveur de la France.
Le gouvernement devait sans attendre s'efforcer de résoudre des problèmes intérieurs délicats comme celui du ravitaillement.
Le problème du ravitaillement, c'est que les Allemands pillent le pays depuis 2 ans. C'est une des conséquences de la politique de collaboration engagée par Philippe Pétain. Et de fait, la crise alimentaire sur le territoire national, aggravée par le marché noir, devient aiguë.
Nous avons réussi à maintenir la ration de pain et nous avons mis tout en œuvre pour améliorer la répartition des vivres. Le ravitaillement des grands centres est, je le sais, encore mal assuré.
Pierre Laval a beau s'agiter, rien n'y fait. Les grandes villes crèvent de faim, au point qu'à Paris, par exemple, certains commencent à cuisiner les chats. Et cette crise alimentaire, aussi bien en zone nord qu'en zone sud, impacte les femmes en premier lieu.
la question de la guerre, la question du ravitaillement, la question de la possibilité de chauffer sa maison, de nourrir ses enfants, d'avoir du lait, etc., se pose à toutes les femmes.
Catherine Lacour-Astol, historienne.
C'est exactement d'ailleurs ce que dit Lucie Aubrac dans un texte qu'elle a prononcé à Londres en avril 1944 pour expliquer que la guerre est aussi l'affaire des femmes, que les Allemands ont fait de cette guerre une affaire féminine parce que les enfants étaient mal vêtus, mal chaussés, etc. Et que donc, voilà.
Tous, mon grand.
Qu'est-ce qu'il a ?
Malnutrition. Carence alimentaire grave. Hein.
Qu'est-ce que je peux faire ?
Donc, toutes les femmes sont de près ou de loin des ménagères. Les manifestations de ménagères commencent très tôt. Dès l'hiver 1940, en constatant que les marchés sont vides, que les étals sont vides et qu'il n'y a rien, c'est des manifestations spontanées, sans mot d'ordre, sans que qui que ce soit ait demandé aux femmes de commencer à manifester, à faire une délégation pour aller à la mairie, à essayer de savoir où était passé le ravitaillement, etc., etc. Ces manifestations de ménagères, elles se rattachent en fait au rôle que jouent les femmes au 19e et même au 18e dans la façon de battre le pavé et de manifester son mécontentement quand il est question de le faire, au moment des disettes, etc. Ces manifestations, on va en avoir pendant toute la période.
Ça fait des semaines qu'on n'a plus rien à se mettre dans l'assiette, c'est pas possible.
Normalement, il y aura un arrivage de beurre et de lait lundi.
Depuis l'automne 1940, les femmes manifestent leur mécontentement sur les marchés un peu partout en France. Et puis, à partir du printemps 1942, face à l'optimisme insensé de Pierre Laval, ces manifestations de ménagères prennent une autre tournure, et notamment à Paris.
En 1942, on a deux manifestations qui sont totalement différentes. Donc, on a parfois tendance à mettre en avant, lorsqu'on parle des manifestations de ménagères, mais justement, elles sont, voilà, tout à fait à part. C'est la manifestation de la rue de Bussy, et c'est la manifestation de la rue de Daguerre. Donc, on est dans le 6e arrondissement, on est dans le 14e arrondissement, dans le cœur de Paris occupé, qui, quoique occupé, dépend aussi de la justice française et de la police française. Et on a là deux manifestations, alors qui sont pas plus importantes que les autres en nombre, parce que dans les manifestations classiques de ménagères, on peut avoir une petite centaine, mais ça peut aller jusqu'à 800, 900 manifestantes selon les lieux. C'est pas le nombre qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est que la manifestation a été prévue, elle a été organisée, elle est orchestrée. Il y a une meneuses, comme les forces de police vont appeler les femmes qui sont en tête de ces manifestations, qui doit haranguer les ménagères. Et l'enjeu, c'est pour le Parti communiste clandestin de se saisir de ces manifestations qui existent sans lui, à l'origine, et qui vont continuer à exister sans lui, et d'articuler ces manifestations avec un mécontentement plus vaste.
Ainsi, le 31 mai 1942, rue de Bussy à Paris, a eu lieu une manifestation de femmes qui a frappé les esprits. Arrêtons-nous un instant sur cette histoire. En 1972, 30 ans plus tard, l'émission de télévision Aujourd'hui Madame revient sur les lieux de cette manifestation, avec Madeleine Marzin, une des protagonistes.
Ici, c'était un grand magasin d'alimentation. Et le jour où nous y sommes venus, c'est-à-dire le 31 mai 1942, devait avoir lieu une distribution d'une denrée d'une rareté exceptionnelle à cette époque, des boîtes de sardines à l'huile. Il y avait une queue considérable de part et d'autre de la porte du magasin. Sur cette rue de Bussy, nous sommes placés dans la queue. En même temps, devait se faire une distribution de tracts pour que la population connaisse le sens précis de notre manifestation et ne nous confonde pas avec des gens qui étaient venus voler à la vitrine du magasin. Cette distribution de tracts a commencé. Oui. Et alors, nous sommes entrés dans le magasin. Les garçons qui étaient à l'intérieur ne s'attendaient pas du tout à une opération de ce genre. Ils nous ont dit « Où sont vos tickets, mesdames ?» Alors, j'ai répondu « Aujourd'hui, c'est sans tickets. » Et tout de suite, nous avons pris les boîtes de sardines et nous les avons lancées à la volée par la porte ouverte aux ménagères qui attendaient de part et d'autre de la queue. Elles ont aussitôt ramassé les boîtes et elles sont parties très vite. Mais nous étions dedans. Les garçons nous ont ceinturés pour essayer de nous empêcher de sortir et nous remettre à la police.
Il y a manifestation du mécontentement, il y a harangue aux ménagères, mais surtout, il y a coups de feu qui sont tirés. Donc, en l'occurrence, un Rudbussy, c'est un soldat allemand qui est tué par les deux FTP, donc francs-tireurs partisans, qui devaient être là pour protéger celle qui est donc la meneuse, et donc qui est Madeleine Marzin. Donc il y a un soldat allemand qui est tué, et donc il y a des arrestations, et il y a jugement.
Vous avez donc été arrêté à cette époque, vous avez été jugé, vous avez été condamné. Condamné à quoi, madame ?
J'étais condamné à mort.
Pourquoi n'avez-vous pas été exécuté ?
À ma connaissance, j'ai été la première femme condamnée à mort par les tribunaux de Vichy. Je crois que c'est parce que le gouvernement de Vichy, et probablement l'occupant, redoutait la réaction de l'opinion publique au cas où j'aurais été guillotinée, et qu'on m'a graciée.
Ce qui donne une importance phénoménale à la manifestation de la rue de Bussy, c'est que Madeleine Marzin est condamnée à mort. Alors, il se trouve que la peine ne sera pas effective, que Pétain va commuer cette peine en travaux forcés à perpétuité. Il n'empêche que, comme la presse, et la presse est évidemment, pour l'essentiel d'entre elles, à la solde de Vichy, relaye l'affaire, on sait que des femmes ont manifesté, que certaines ont été jugées, on sait que l'on condamne à mort, et donc ça donne une importance absolument énorme à ces deux manifestations-là.
Le régime de Vichy fait donc la publicité de la condamnation à mort de Madeleine Marzin, histoire de dissuader les femmes d'expérimenter la désobéissance civile à travers de nouvelles manifestations dans la rue. Et pour les ménagères, désobéir aux ordres du régime de Vichy devient désormais très compliqué.
La difficulté de désobéir tient au fait qu'on est assez vite pris au piège entre quatre murs qui sont les quatre murs de la peur.
Frédéric Gros est philosophe.
Peur de la sanction d'abord, je vais aller très vite, mais peur de la sanction c'est évident, parce que désobéir ça a un coût. Et les résistantes le savaient mieux que personne d'autre, parce que ce coup, c'était de l'incarcération, c'était de la mort. Le coup était très lourd, donc peur de la sanction. Deuxièmement, peur aussi quand même de la solitude, parce que ce qui fait communauté, c'est toujours l'obéissance. Et quand on voit que tout le monde obéit autour de nous, ben voilà, on n'a pas forcément envie de se singulariser et on a peur de se retrouver seul. Mais peur aussi de la rupture. Parce qu'au fond, désobéir, c'est aussi faire rupture avec une certaine continuité, c'est tellement facile. Et enfin, et ça c'est quelque chose comme une espèce de trou noir dans la philosophie qu'elle a peine même à appréhender, peut-être qu'à un moment, la peur la plus vertigineuse, c'est la peur de la liberté elle-même. C'est-à-dire que désobéir est un acte non seulement d'humanité, mais aussi la preuve qu'on est libre, et au fond, cette liberté nous fait peur. Désobéir, c'est servir, et obéir, ce serait trahir, parce que ce serait se trahir soi-même, au fond. Ce serait trahir ses propres convictions.
Obéir, c'est trahir. Et désobéir, c'est servir. C'est ce qu'on pouvait lire sur un des tracts clandestins distribués sous l'occupation. Obéir, c'est trahir. Une conception immorale aux yeux de Philippe Pétain et de Pierre Laval, au printemps 1942.
Je ne peux rien faire pour vous sans vous. Nul ne saurait sauver une nation inerte ou rétive. Seule l'adhésion du pays peut faire d'une politique sensée une politique féconde. Quand je vous dis que cette politique est la seule qui puisse assurer le salut de la France et garantir son développement dans la paix future, vous devez me croire et me suivre.
Le retour de Pierre Laval aux affaires, le 18 avril 1942, coïncide avec l'application de la 8e ordonnance allemande, ordonnance qui prescrit le port de l'étoile jaune pour les juifs de la zone occupée.
Écoute, maman. Disposition pénale. Les infractions à la présente ordonnance seront punies d'emprisonnement et d'amende. Des mesures de police telles que l'internement dans un camp de juifs pourront s'ajouter ou être substituées à ces peines. Regarde, maman, là. Il nous marque comme au Moyen-Âge.
Bon, allez, tais-toi, Henri, maintenant, ça suffit.
Alors, soyons clairs. Pierre Laval n'y est pour rien. Disons même qu'il n'y est pas favorable. Mais il ne s'y oppose pas. Il laisse couler. Et sur les ondes de Radio Paris, en juin 1942, l'archive est authentique. Les collaborationnistes français justifient cette infamie.
Je me trouve à nouveau dans la librairie de l'Institut d'études des questions juives, où je trouve M. Laville, qui, à l'Institut, est un spécialiste des questions raciales. Et puisque l'étoile, le port de l'étoile jaune est à l'ordre du jour, je suis venu demander à M. Laville en quoi cette mesure se justifie. Monsieur, les Juifs, évidemment, se lamentent. Et ce qui est plus grave, beaucoup de Français à rien se lamentent pour le compte des Juifs et ont pitié d'eux et de la mesure nouvelle qu'on prend. Est-ce qu'il s'agit d'une mesure vexatoire ou au contraire d'une mesure qui vous paraissait s'imposer ?
C'est une simple mesure de défense des Français contre des étrangers à leur race qui ont envahi silencieusement notre sol, mais d'une façon fort tenace, et ils sont venus surtout pour profiter. Or, le mal vient de ce que les Français ne savent pas reconnaître les Juifs. La question ne se poserait pas si, par exemple, les Juifs avaient la peau bleue, mais ce n'est pas le cas. Il faut donc qu'on puisse les reconnaître.
Au moment où apparaît l'étoile jaune dans les rues de Paris, Geneviève de Gaulle, notre premier personnage, est étudiante à la Sorbonne. Comment réagit-elle ?
On sait que Geneviève de Gaulle, d'abord, est très au courant de ce qui se passe à l'égard des Juifs de France, et elle le sait même, je dirais, avant les autres Français, puisqu'elle était en Allemagne dès 1933. Son père était en Allemagne et qu'ils ont assisté au sort réservé aux Juifs en Allemagne à cette époque-là.
L'historienne Frédérique Naud-Dufour.
Et en octobre 1940, elle est témoin des lois antisémites de Vichy, notamment de cette ordonnance du 27 septembre 1940 qui définit ce que c'est qu'un juif et qui oblige tous les juifs à être recensés. Et elle trouve cela, hein, ce sont ces mots très inquiétants, de même que le port de l'étoile jaune à partir de mai 1942 qui la choque profondément, de même que l'interdiction pour les juifs d'accéder à certains endroits. Et pour elle, c'est quelque chose d'insupportable. Elle dit, on ne pouvait pas supporter ce rejet. Mais elle le dit elle-même après son retour des camps, la chambre à gaz, on ne savait pas, et la Shoah, on ne savait pas. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu, avant sa déportation, l'occasion de prendre conscience de l'ampleur du crime qui a été commis. Mais en revanche, elle est témoin, et c'est déjà beaucoup, de ce qui se passe au pied de sa porte, et elle en est extrêmement choquée.
Maman, aujourd'hui, j'ai pas de devoir.
Geneviève de Gaulle, témoignage recueilli par Maya Wechsler dans Sœurs en résistance.
Asseyez-vous, les enfants. Allez manger, ça va être froid.
Je pense toujours aux femmes qui avaient des enfants. Moi, je ne sais pas comment j'aurais agi à ce moment-là. Parce que on peut choisir de donner sa vie pour son indignation, mais qu'est-ce qu'on fait quand la vie des enfants est en jeu ? Quand ils peuvent être tués, torturés ou séparés de vous d'une manière irrémédiable.
Et pourquoi on reste pas tous ensemble ? Parce que c'est trop dangereux, on pourrait se faire repérer. Vaut mieux se séparer. Et puis, personne ne se méfiera de petits garçons comme vous.
Et vous ?
Nous, on partira demain, et puis la semaine prochaine, on sera tous à Nice.
Par ailleurs, Durant l'été 1942, la nièce du général de Gaulle est devenue agent de liaison dans la résistance. Elle transporte des messages. Et elle s'interroge sur son avenir.
En 1942, je commençais à me demander si j'allais pas décrocher et entrer tout à fait dans la clandestinité.
Geneviève de Gaulle, 1995.
Enfin, j'ai attendu encore. Je suis passée en Espagne. Je suis passée pour voir comment était le passage avec le courrier qu'on m'avait donné. C'était drôle. D'ailleurs, je me suis dit, j'y reste. Qu'est-ce que je fais finalement en New York? Ben non. Qu'est-ce que je ferai moi à Londres? Je sais pas. Me servir d'une arme. Je suis plus utile ici, donc je reviens. Donc j'ai traversé la frontière.
Geneviève de Gaulle renonce donc à rejoindre Londres et la France libre, où elle aurait sans doute croisé, dans l'entourage proche de son oncle, notre deuxième personnage, Simone Mathieu. Car après avoir été évincée du commandement des volontaires françaises, l'ex-championne de tennis au caractère bien trempé est entrée dans les services secrets du général de Gaulle.
Donc effectivement, elle va être intégrée au service du renseignement, hein, Bureau central de renseignement et d'action, service secret effectivement de Londres. Et c'est vrai qu'elle est mise à l'écart, vraisemblablement.
L'historien Éric Allary.
Alors, il y a plusieurs hypothèses qui courent sur cette année 42. Parce que c'est celle-ci qui pose problème, entre guillemets, où on a peu d'informations. Peut-être a-t-elle eu des missions en France. J'ai lu deux ou trois témoignages qui disent qu'elle aurait peut-être accompli des missions très risquées pour permettre la fourniture en armement de certains réseaux de résistance. On n'en sait rien, c'est secret. Par essence, tout ce qui est secret ne laisse pas d'archives. Donc vraisemblablement, elle a travaillé à Londres dans les bureaux, mais esselée. Elle est considérée comme toxique, elle est considérée comme invivable, ingérable. Donc, comme cela se passe dans toute administration encore aujourd'hui, eh bien, on met un peu les gens à l'écart quand ils sont invivables. Sauf qu'elle a de l'expérience. Sauf que le général de Gaulle a besoin de personnes d'expérience. Et vraisemblablement, dès 1942, il demande à ce qu'elle vienne dans son secrétariat particulier. Mais ce n'est pas officiel. Voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de flou.
Charles de Gaulle, lui, en août 1942, prend un avion pour le Caire, en Égypte, où vit René Davély, notre troisième personnage.
La visite du général de Gaulle au Moyen-Orient, alors que les soldats de la France combattante venaient de se distinguer sur les derniers champs de bataille, prenait une émouvante signification.
Archives Pathé.
Dans un camp du désert, le général de Gaulle passe en revue les hommes de Bir Hakeim. Sous ce même nom de la France combattante, leur héroïsme rejoignant celui des hommes qui bravent chaque jour les fusillades sur le sol natal, réalise la pleine unité de la France pour la libération. C'est donc sous ce signe de la libération qu'il convenait de placer la nouvelle décoration créée pour récompenser les héros de cette lutte.
De Gaulle vient donc au Caire pour féliciter et décorer les soldats français qui ont participé à la victoire alliée dans la bataille de Bir Hakeim.
Et au bout de, je crois, 15 jours et 15 nuits, c'est-à-dire exactement dans la nuit du 10 au 11 juin, l'évacuation a été décidée. Alors je voudrais vous demander comment vous êtes sorti de Bir Hakeim en passant à travers les lignes italo-allemandes.
Archives RTF, témoignage d'artilleurs français, 1952.
J'avoue que pour ma part, l'affaire a été aisée car j'avais été blessé depuis 2 jours et j'étais dans mon trou inutilisable. On m'a mis dans un camion. Le camion est parti dans le convoi. Et la seule sensation, je dois le dire honnêtement, la seule sensation que j'ai eue, c'est d'un formidable feu d'artifice.
Oui, mais donc vous étiez tout de même le centre.
Oui, mais non, on s'en rendait plus très bien compte. Nous n'étions plus tout à fait dans le bain d'ailleurs de la vie courante.
Et finalement, vous n'êtes tout de même pas rentré à pied à Alexandrie, vous avez retrouvé le camion.
Non, au petit jour, nous avons trouvé une automitrailleuse anglaise, à la suite de laquelle nous avons retrouvé des camions qui nous ont envoyés sur l'arrière de la division d'où nous sommes rentrés à Alexandrie.
Face aux troupes allemandes, les forces françaises libres se déploient au Proche-Orient et la guerre du désert s'intensifie.
De violents combats sont en cours. Le communiqué transmis ce matin par le Caire annonce « La 8e armée, appuyée par les forces aériennes, a déclenché la nuit dernière à partir d'El Alamein une offensive générale. Les forces aériennes alliées ont continué le pilonnage intensif des terrains d'atterrissage ennemis dans la zone de combat. À l'heure où nous émettons, les forces allemandes de Rommel reculent partout.
Arrive alors la bataille décisive d'El Alamein. Et durant l'automne 1942, les combats sont acharnés et les blessés nombreux dans les hôpitaux du Caire où René Davély tient son rang.
René Davély dans Magazine Images en Égypte en août 1942. Chaque jeudi, une camionnette de la Croix-Rouge vient me chercher. Nous allons dans les différents hôpitaux militaires et procédons à la distribution des cakes, bonbons, fruits, etc.
Je vous en prie, madame.
En dehors du jour de la distribution des cakes, j'y vais en moyenne 4 ou 5 fois par semaine.
Votre jambe gauche, tendez la jambe. Allez, appuyez-vous.
Les soldats doivent se distraire. Je les fais chanter avec moi. Cela les amuse et les secoue un peu. C'est un tel plaisir de passer chaque fois quelques heures avec eux.
René Davély est quelqu'un qui en fait passe ses semaines, presque 7 jours sur 7 dans cet engagement.
Olivier Loube est historien.
Et on a retrouvé, bien sûr, le nombre de ses engagements dans les hôpitaux. Elle est constamment en train d'être dans les hôpitaux ou de tenir des galas ou de recueillir de l'argent. Enfin, son engagement est un engagement total hein, dans ce soutien à la guerre. C'est pas simplement une vedette qu'on vient chercher. Et d'ailleurs, elle-même va organiser des équipes autour d'elle. Et ça, c'est très intéressant. On a des courriers où on la remercie ensuite. C'est les Britanniques qui le font en disant « Vous avez amené avec vous un comique, un contorsionniste, etc. » Mais c'est elle qui est quand même une sorte de petit chef d'entreprise de ces tournées auprès des blessés.
Le médecin de la section des grands brûlés d'un hôpital en Égypte, août 1942. René Davély a accompli de véritables miracles. Un de mes hommes avait un terrible cafard parce qu'il était entièrement défiguré. Madame Davély a chanté pour lui, puis elle lui a planté un baiser solide de camarade sur sa joue brûlée. Eh bien, ce baiser a agi comme un baume sur mon malade. Il m'a dit, après le départ de la vedette, « Je ne dois pas être aussi répugnant que je le pensais, puisque The Pretty French Girl m'a embrassé de si bon cœur. »
Au Caire, durant la bataille d'El Alamein, René Davély chante aussi à la radio pour les soldats des forces françaises libres qui affrontent les troupes du maréchal Rommel. Enregistrement de René Davély sur un disque 78 tours.
Étant trahi de défaite en défaite, un armistice par des lâches étant conclu, la France était envahie par toutes ses traîtres, et nous savons comme ils traitent les vaincus. Ne voulant pas courber la tête, en Angleterre nous sommes venus. Un vrai chef est à notre tête, il nous mènera à notre but. Reconquérir Paname, chasser les ennemis, des Alpes jusqu'au Rhin, libérer le pays. C'est la légion du général de Gaulle. Sous son pavillon, nous luttons librement. Nous saurons reconquérir la Gaule et l'Empire également, également. Notre Légion, pour nous, c'est notre mère. Pour la servir, si le faut, nous mourrons. Et d'en mettre chacun se sent fier. Vive la Légion, la Légion, la Légion.
On n'entend pas sur Radio Londres, mais on l'entend sur les ondes françaises ou britanniques. Pour les armées de ce coin-là du monde. Et elle a des engagements ponctuels, mais pas que. Elle est connue, par exemple, à la fameuse auberge des pyramides, qui se trouve être un des lieux de la vie nocturne française, et dont sa carrière se poursuit localement, même si l'essentiel quand même de son activité est une activité en guerre.
En 30 secondes, vous y allez.
les troupes coloniales qui ont récemment passé par l'Égypte, les marins qui ont fait escale dans les ports de l'Orient et les soldats transitant par ce pays n'ont jamais été oubliés. À des milliers de filleuls, j'ai distribué plus de 5000 croix de Lorraine, 108 000 photos me représentant en train de chanter, portant l'insigne de la croix de Lorraine, ainsi que divers objets marqués du cachet de notre belle France.
On dispose en effet de nombreux clichés de Renée Davély au Caire entre 1942 et 1944, où elle pose en uniforme, souvent avec son accordéon, son arme de guerre.
La quasi-totalité des photos que l'on a d'elle est en uniforme. Uniforme qu'elle est autorisée à porter. On n'est pas dans le comique troupier ou le musical, justement, quand Fernandel porte un uniforme sur la scène de l'Alhambra à Marseille dans les années 20, au tout début des années 20, il le fait comme un costume de scène. Les décorations qu'elle porte ou les insignes qu'elle porte, et on a des photos d'elle très clairement, bon, la Croix de Lorraine par exemple, ou bien référée à l'uniforme qui peut être celui justement de la Croix-Rouge britannique. C'est une femme dont les photos sont les photos effectivement d'elle en uniforme avec accordéon. On joint les deux, c'est-à-dire son activité est bien une activité de chanteuse, mais elle est en uniforme parce qu'elle est une femme des forces françaises libres.
Pour clore ce deuxième chapitre, retenez qu'au contact de la guerre, les destins de ces deux femmes se croisent. Simone Mathieu, ex-vedette mondiale du tennis, disparaît dans l'ombre des services secrets gaullistes, alors que Renée Davély, elle, qui courait après la gloire, devient une vedette aux armées, au cœur de la guerre du désert. Revenons maintenant en France, territoire dirigé à la fois par les nazis et par Pierre Laval.
Los, aufsetzen, beeilt euch.
Lorsque le chef du gouvernement de Vichy s'exprime à nouveau à la radio en juin 1942, il dessine sa vision de l'avenir.
De cette guerre surgira inévitablement une nouvelle Europe. Pour construire cette Europe, l'Allemagne est en train de livrer des combats gigantesques. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout.
Face à cette collaboration qui s'accroît sous l'impulsion du gouvernement Laval, la résistance intérieure cherche à s'organiser et à se renforcer.
Je suis ici comme le représentant personnel du général de Gaulle. Je suis chargé de réaliser l'unité des mouvements, de veiller à la séparation du politique et du militaire, et pour ça de faire accepter par tous la coordination venue de Londres.
Et pour cette résistance intérieure, que tente de structurer et d'unifier Jean Moulin, tout change à partir du 8 novembre 1942.
En novembre 1942, un an après leur entrée en guerre contre les nazis, nos plus récents alliés, les Américains, débarquèrent en Afrique du Nord. Dans un discours prononcé en français le 7 novembre 1942, le président Roosevelt déclara.
Archives Pathé.
Nous arrivons parmi vous à repousser les envahisseurs cruels. Vive la France éternelle.
Le débarquement allié, qui libère l'Afrique du Nord à l'automne 1942, est baptisé l'opération Torche. Et, en représailles, les Allemands envahissent la zone sud de la France. Avec quelles conséquences ?
L'opération Torche et surtout l'invasion de la zone libre vont en fait lever l'hypothèque. L'hypothèque, c'est que vous avez beaucoup de Français qui sont convaincus que Pétain prépare en secret la revanche.
Olivier Vieviorca, historien.
Or, Pétain n'a jamais préparé en secret la revanche, tout simplement parce que la pérennisation de son régime dépend de l'Allemagne nazie. Si l'Allemagne nazie s'écroule, son régime tombe. Donc Pétain va s'accrocher au régime nazi jusqu'au bout. Mais beaucoup de Français, peut-être aussi parce qu'ils y trouvent un prétexte pour ne pas s'engager, pensent que Pétain prépare la revanche. Or, le 11 novembre 1942, que se passe-t-il? Bah rien. Les Français ne résistent pas, hormis l'exemple archi-connu de Delattre de Tassigny, qui lui va demander à sa division de faire mouvement, et donc Pétain se couche.
Le général Delattre de Tassigny, officier aux ordres de Vichy, riposte avec ses troupes à l'invasion allemande de la zone sud. Il est arrêté et condamné à 10 ans de prison par la justice de Pétain avant de rejoindre la France libre.
Et à partir du moment donc où Pétain se couche, là, il n'y aura pas une infinie variété de choix. Où on est pour Pétain, mais dans ce cas-là, cela veut dire qu'on est pour un régime fantoche et collaborateur, où on est contre lui. Et donc, au fond, le masque des apparences se déchire. Et beaucoup de Français, je pense par exemple à beaucoup de militaires, vont là être placés devant un croisement et décider ou non d'entrer dans la résistance. Donc c'est en ce sens que, pour la résistance, hein, le 8 novembre 1942 est important.
Vous avez changé de bord ?
J'ai été trahi par le maréchal. Il a ouvert la porte de la France aux envahisseurs.
Ah, vous savez, Peter.
Alors, quel est l'impact de cette invasion allemande sur la vie de notre quatrième personnage, Lucie Aubrac.
Et au virage, terminus. Tous les voyageurs descendent du train.
Alors, l'invasion de la zone sud par la Wehrmacht change beaucoup de choses dans la vie de Lucie Aubrac.
L'historien Laurent Douzou.
Enfin, apparemment non, puisqu'elle continue à enseigner. Son mari est toujours ingénieur. Mais ça change des choses parce que le danger devient beaucoup, beaucoup plus fort. Non pas que la police de Vichy soit restée inactive jusqu'en novembre 42, il y a eu des coups durs, il y a eu des arrestations, mais là, j'allais dire, on franchit un degré. Parce que la Wehrmacht arrive avec l'Abwehr, son contre-espionnage, avec son service de sécurité, et il va y avoir une collusion très très forte et croissante entre le régime de Vichy et les Allemands, et donc la répression devient de plus en plus forte. Et c'est pas pour rien que les trois mouvements combat, libération et franc-tireur, qui avaient beaucoup rechigné à coordonner leur action, acceptent dès janvier 43 de fusionner dans ce qu'on appelle les mouvements unis de résistance, parce qu'ils se rendent compte que s'ils ne sont pas unis, s'ils ne fusionnent pas, la répression risque de les décimer très rapidement.
Il y a aussi une chose que Raymond et moi, nous vous avons déjà répétée. C'est pas prudent de garder ce nom de Samuel. Il faut le changer. Moi, je connais quelqu'un...
Je te l'ai déjà dit, Lucie, nous ne changerons pas de nom. Nous sommes la cinquième génération de Samuel en France. J'ai fait la guerre 14, j'ai été blessé, j'ai la croix de guerre. Nous avons un fils prisonnier en Allemagne. Nous sommes Français, Lucie. Français!
Et puis dans la vie de Lucie Samuel, ce qui change aussi, c'est que la menace devient de plus en plus forte sur la personne de son mari en raison du fait qu'il est juif, sur les parents de son mari qui sont juifs aussi. Et donc là, il y a un danger, j'allais dire personnel, intime, familial, qui devient de plus en plus présent.
Lucie Aubrac, dans la résistance, naissance et organisation. 1945. Ce que je voudrais faire ressortir de cette étude, c'est l'extraordinaire vitalité de la clandestinité pendant l'occupation. La vie secrète de toute la France, comme celle d'une femme qui aurait un amour caché, lui prenant le plus beau de son temps et de son cœur. Vie parcellaire, vie de hasard, sans homogénéité, puisqu'elle animait des hommes et des femmes de classes différentes, de métiers et de traditions variées.
Avec la Gestapo, qui rôde désormais à Lyon, les époux Samuel redoublent de prudence et Raymond devient Aubrac.
Aubrac, c'est l'un des pseudonymes de Raymond Samuel dans la Résistance. Alors là, il faut faire une petite explication parce qu'on confond souvent les choses. Il y a l'identité réelle de quelqu'un, Raymond Samuel. Il y a les fausses identités qu'il se fabrique, François Vallée, Lucien Hermelin. Et puis, il y a les pseudonymes qu'on utilise dans le mouvement pour n'être connu des autres que sous ce pseudonyme. De sorte que si on arrête quelqu'un, il pourra dire, après avoir été torturé, j'ai rencontré Aubrac, mais ça dira pas du tout l'identité. d'Aubrac. Et Aubrac, sachant que quelqu'un a été arrêté et a pu parler, changera de pseudonyme. Donc Aubrac est l'un des pseudonymes de Raymond Samuel, et c'est le nom qu'en 1950, très officiellement, les époux Samuel ont pris pour patronyme.
Alors, maintenant, tu t'appelles Claude Hermelin. Né à Sedan, fils unique, célibataire. Tu as été rapatrié en avril de Tunisie, où tu étais militaire. Ça, c'est ton titre de démobilisation. Bon, vérifie bien les automatismes de ta mémoire. Mmh. Et puis surtout, brûle les anciens papiers. Hein, même les cartes de ravitaillement, de tabac, de textile. D'accord ? Claude ?
Oui.
Par ailleurs, cette invasion allemande de la zone sud percute aussi la vie de Mila Racine, notre cinquième personnage. Souvenez-vous, la famille Racine, famille russe immigrée, était installée à Luchon en 1942. Et c'est la sœur de Mila, Sacha, qui témoigne devant les caméras de la Fondation Spielberg en 1997.
Sacha Racine Meinberg, à Paris, en France, et en français, c'est la troisième cassette.
Alors,
on s'était arrêté à Luchon.
Voilà.
À Luchon, au bout de, je ne sais plus en quelle année c'était, 42 peut-être, est arrivé le bruit que les Allemands allaient venir. Et le propriétaire de l'hôtel où nous étions, qui nous aimait beaucoup, a dit à mes parents, si vous voulez, je vous passe en Espagne. On est tout près de l'Espagne, je vous passe. Mais mon frère ne voulait pas quitter la France. Et mes parents ne voulaient pas quitter mon frère. Donc on a décidé que non. On ne savait pas à cette époque encore ce qui se passait dans les camps. On n'était pas
au
courant.
Vous pensiez qu'au pire, c'était des camps de travail?
De travail, oui. On n'avait pas une idée. En 38, personne n'imaginait qu'il y aurait la guerre en 39. En France, on ne savait pas. On était vraiment inconscients, non? Ça, on aurait pu partir en Amérique, mais ça ne venait même pas à l'idée. Donc à Luchon, c'était en 41-42, on est arrivé à Nice.
Monsieur ?
Oui, madame.
Vous pouvez nous aider ?
Bien sûr.
Oh, attention. Oh. Vas-y, aide-moi.
Mila Racine, Nice, 1942. Nice est une belle ville. Malheureusement, le temps n'est pas heureux, et le ciel d'azur et la mer bleue ne sont pour moi jusqu'à présent que de belles phrases. J'espère pouvoir prolonger mon sauf-conduit, autrement ce serait vraiment dommage. Je voudrais visiter Monte Carlo et Cannes.
Tu vois ?
Ce qu'on sait, c'est que la famille déménage à Nice, fin de l'année 42, début de l'année 43.
Zoé Grimbert, historienne.
Pourquoi Nice ? Parce que les Allemands ont envahi la zone sud le 11 novembre 42 en représailles au débarquement allié en Afrique du Nord. Et dans le cadre de cette invasion de la zone sud, les Italiens, donc alliés des nazis, se voient octroyer une zone plus importante d'occupation, qui comprend notamment des villes donc comme Nice, Cannes, Grenoble. Et très vite se répand la rumeur fondée que les Juifs seraient en sécurité dans la zone d'occupation italienne. Ce qui conduit un certain nombre de Juifs à décider de fuir l'ancienne zone occupée, qui est désormais donc la zone nord, et une partie de la zone sud, pour rejoindre la zone d'occupation italienne. C'est ce que fait la famille de Mila, et on sait qu'à Nice, Mila est l'assistante d'un couple qui représente le mouvement de la jeunesse sioniste et qui aide les réfugiés, les nouveaux arrivants à Nice.
Le mouvement de jeunesse sioniste fut créé en mai 1942 à Montpellier par Simon Lévite.
C'est un mouvement qui est unique en Europe, dans le sens où c'est la première fois qu'une dizaine à peu près de mouvements de jeunesse sioniste décident de s'unir et de mener une action commune pour plus d'efficacité. Et donc ce mouvement de la jeunesse sioniste va jouer un rôle important pendant la Seconde Guerre mondiale, en recrutant un certain nombre de jeunes gens et de jeunes filles qui souhaitent s'engager, alors pour une cause qui est bien sûr le sionisme, mais d'abord et avant tout à ce moment-là, pour le sauvetage des Juifs.
Et je crois que c'est là déjà qu'on a fait des faux papiers à mes parents.
Sacha Racine, 1997.
Parce que ma mère parlait très bien le français, elle avait appris. Mais mon père, qui est arrivé, il avait 47 ans de Russie, il avait un accent impossible russe, puis il parlait pas bien français. Alors s'appeler Racine pendant la guerre, avec l'accent qu'il avait, ça faisait vraiment trop faux. Donc on leur a fait des faux papiers Finievski, russe, naturalisé français. Alors ça allait, ils étaient français, mais l'accent russe de mon père était expliqué. Et alors donc, on a pu habiter ensemble. Ma sœur et moi, qui s'appelions Racine, ne voulaient pas habiter avec des Finievski qu'on appelait papa et maman. Ils sont allés ailleurs, dans un autre... un petit hôtel.
On sert le petit déjeuner tous les jours, entre 7h et 9h. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez descendre à la réception. En général, il y a toujours quelqu'un.
En novembre 1942, après l'invasion allemande de la zone sud, Mussolini récupère des territoires français. Mais le Duce ne livre pas aux nazis les juifs étrangers qui sont sous sa responsabilité en France. Non pas par humanisme, mais par cynisme diplomatique. Je vous explique. L'Allemagne est alors en difficulté sur les champs de bataille et l'avenir de la guerre est incertain. Donc, les conseillers de Mussolini lui font comprendre que ce n'est pas vraiment l'intérêt de l'Italie de se retrouver mêlée à la politique criminelle d'extermination des nazis. Aussitôt, les Allemands se crispent.
Les Allemands se posent des questions et demandent des gages à leurs alliés italiens qui vont proposer aux Allemands de regrouper les Juifs dans des centres de résidence forcés. Surveillés, en tout cas. Et ces centres de résidence vont se situer à 100 km des côtes. Il y en a dans les alentours de Nice, par exemple, mais il y en a aussi en Haute-Savoie, à Megève et à Saint-Gervais.
Les Juifs sont regroupés à 100 km des côtes pour éviter qu'ils ne s'échappent par la mer.
Et donc, Mila fait partie d'un groupe de Juifs de Nice qui... en avril, le 8 avril, quitte Nice pour rejoindre un de ses centres de résidence surveillés à Saint-Gervais. Elle a un but, en fait. Elle n'est pas envoyée tout à fait au hasard. Elle est avec sa sœur Sacha. Et son but, alors on ne sait pas qui lui a donné évidemment cette directive, mais son but est de rejoindre Saint-Gervais et d'y créer une antenne, en fait ce qu'on appelle une brigade ou un gdoud en hébreu, du MJS, donc du mouvement de la jeunesse sioniste, à Saint-Gervais. À Saint-Gervais, il y a environ 850 juifs qui sont arrivés de Nice principalement. C'est des familles et leurs enfants. Donc Mila y arrive, le départ est le 8 avril 1943. Et ce qu'on sait, c'est qu'en juin 1943, elle a réussi à faire en sorte que toute la jeunesse juive de Saint-Gervais soit membre de cette brigade du MJS. Le but de cette brigade MJS est d'aider en fait la population juive. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que où que se trouvent des juifs en nombre assez important, se créent des organisations, pas ex nihilo, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui représentent des organisations qui existaient déjà et qui souvent recréent des comités ou des organisations qui doivent aider les juifs réfugiés. C'était le cas à Nice. Donc le groupe MJS dans lequel était Mila était membre d'un comité plus global, le comité du bouchage, du nom du boulevard du même nom à Nice, dont le but était d'accueillir les juifs réfugiés qui arrivaient, qui avaient besoin d'un logement, d'information, de vie sociale. En fait, elle fait la même chose à Saint-Gervais. Un comité d'adultes, entre guillemets, est créé. C'est un comité de représentants des juifs sur place, dont le but est d'aider les juifs qui en auraient besoin, mais aussi de créer un semblant de vie normale. Donc ce comité, avec l'aide du groupe de Mila, décide de créer une école, d'aider les enfants à être scolarisés, propose aussi un dispensaire avec l'aide donc d'une autre association c'est l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, qui propose un dispensaire, qui envoie des médecins qui sont là pour aider les juifs de Saint-Gervais.
Répète après moi. Komets Aleph ou Komets Beis ou Komets Veis ou Komets Gimel ou. Répète.
Komets Aleph ou Komets Beis
ou. Donc en fait, il faut bien avoir l'esprit que les gens ne restent pas à ne rien faire. Ils essayent de vivre une vie la plus normale possible dans le contexte de persécution qui s'accélère. Et Mila est là encore à Saint-Gervais en tant que représentante des jeunes du MJS, partie prenante de cette organisation de la vie juive.
Et à Saint-Gervais, on a eu des mouvements sionistes importants qui est arrivé, Simon Lévite et d'autres, et ils ont dit, écoutez, ces deux ghettos, au milieu de la France allemande, c'est la chose la plus dangereuse qui puisse exister. Il faut essayer d'évacuer le plus d'enfants possible vers la Suisse. On savait que la Suisse acceptait des enfants jusqu'à 16 ans ou des femmes avec des bébés. Les autres, non.
Ces lieux de rassemblement vont être le point de départ de la fuite et de la filière d'évasion pour les enfants juifs. Dans une France où la police française a participé à la rafle du Veldiv au mois de juillet 1942 à Paris, avec un bilan de 13 000 juifs déportés, dont 4 000 enfants livrés aux nazis par Pierre Laval.
Pour la rafle du Veldiv, président, les Allemands ne veulent pas d'enfants de moins de 16 ans.
Combien y en a ?
4000 petits. Que décidez-vous ?
Enfin, Jardin, vous nous voyez garder 4000 enfants, franchement. Qu'en ferions-nous ? Et puis, il faut être humain quand même. Les enfants doivent rester avec leurs parents. Non ? Puis débrouillez-vous avec les Allemands, qu'ils les gardent. Après tout, c'est nous qui faisons le sale travail. Qu'ils s'en occupent.
En conclusion de ce cinquième épisode, retenez qu'en 1942, la guerre s'intensifie partout dans le monde. On se dirige à toute vitesse vers une guerre totale. Et l'étau se resserre autour de nos cinq femmes. Plus particulièrement autour des trois qui sont restés en France. Et rien ne va s'arranger, puisqu'en janvier 1943, Pierre Laval crée la milice qu'il confie à Joseph Darnand.
Êtes-vous contre la dissidence gaulliste pour l'unité française, contre le bolchevisme pour le nationalisme, contre la lèpre juive pour la pureté française ?
Darnand et sa clique de miliciens ont la ferme intention de traquer les résistants et les juifs.
Je m'engage à servir la France au sacrifice même de ma vie. Je jure de consacrer toutes mes forces à faire triompher l'idéal révolutionnaire de la milice française dont j'accepte librement la discipline.
Nos cinq femmes vont-elles échapper à la meute fasciste lancée à leur trousse ? C'est l'horizon du prochain épisode. Les Résistantes, un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medevielle. Lecture, Laure Calamy, Aurore Clément, Anne Brochet et Anna Mouglalis. Assistance éditoriale, Irène Menahem, assistée de Léonie Ferré. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer et Cédric Diallo. Prochain épisode, dans la gueule du loup. Les Résistantes est un podcast original de France Inter.